Féroé Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, édition du vendredi 2 décembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Tout d'abord les titres, l'Allemagne, quadruple champion d'une championne du monde, est sortie dès le premier tour pour la deuxième Coupe du Monde consécutive. La Belgique, demi-finaliste en 2018, renvoyée à la maison. Le surprenant Maroc, premier du très relevé groupe F, est qualifié pour les huitièmes de finale. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré confirme une tentative de putsch contre le régime le week-end dernier. En RDC, la trêve est finie et l'armée accuse le M23 d'avoir massacré 50 civils dans l'est du pays. Au Mali, 11 soldats et 11 civils ont été tués dans une rare attaque terroriste dans l'ouest. Ici à Washington, les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron réaffirment leur détermination à faire front contre la guerre menée par la Russie en Ukraine. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Quatre ans et demi après le fiasco du Mondial 2018 en Russie, l'Allemagne a connu un nouveau naufrage en Coupe du Monde, éliminée dès le premier tour au Qatar. Une piteuse sortie qui fait tache à 18 mois de son Euro à domicile, Eric.
La Mannschaft s'était inclinée 2-1 dans son entrée contre le Japon avant d'arracher le nul 1-1 face à l'Espagne. Et sa victoire 4-2 contre le Costa Rica ce jeudi soir n'aura pas été suffisante pour lui permettre d'aller en huitième de finale. L'arbitre française Stéphanie Frappard siffle à la fin de la rencontre. L'Allemagne est éliminée. Le coup de sifflet final a été accompagné de cris de colère. Suivez ses supporters allemands choqués.
Le résultat de l'Espagne ne nous a pas aidés. Et cela a été le facteur décisif. Vous savez que les choses vont mal lorsque vous devez compter sur d'autres résultats lors du dernier match.
C'est la deuxième fois consécutive que la Mannschaft quadruple champion du monde sort dès les phases de poule. Un échec d'autant plus cuisant qu'il intervient moins de 2 ans avant l'Euro en Allemagne. Et puis le Japon, surpris par le Costa Rica 1-0, a récidivé en prenant le meilleur sur l'Espagne grâce à 2 buts au retour des vestiaires. L'Espagne est certes qualifiée mais battue 2-1 par le Japon et laisse filer la première place au profit des Nippons à l'issue d'une soirée mémorable où les 4 équipes ont tour à tour été qualifiées. Les fans de football à Tokyo célèbrent la victoire surprenante de leur équipe contre l'Espagne.
Le Japon a battu les équipes d'Allemagne et d'Espagne, toutes deux mieux classées, mais il a perdu contre le Costa Rica. Cela me donne l'espoir qu'ils pourront gagner contre des équipes mieux classées lors de la phase à élimination directe. On ne sait jamais.
L'autre surprise de son Mondial Qatar 2022, la Belgique quitte le tournoi dès le premier tour après avoir buté sur la Croatie 0-0 malgré 3 énormes occasions en fin de match. Et dans la foulée, le sélectionneur Roberto Martinez a annoncé après la rencontre qu'il quittait ses fonctions après 6 années marquées par la 3e place des Diables Rouges au Mondial 2018. Stoppé par les Bleus en demi-finale après une victoire mémorable face au Brésil au tour précédent de 1 des supporters belges à Bruxelles expriment leur amertume.
Le sentiment là, c'est on aurait pu mieux faire et je suis dégoûté clairement. Je suis dégoûté de ne pas être qualifié, de ne pas continuer à suivre la Belgique en fait.
Après 3 éliminations frustrantes en Coupe du Monde et dès le premier tour, les Lions de l'Atlas réunissent même pour la première fois la passe de 2 victoires d'affilée. Les Marocains se sont montrés expéditifs. Les Lions de l'Atlas écrivent cette page d'histoire et leurs supporters célèbrent une qualification pour les 8e de finale pour la première fois depuis 1986.
Honnêtement, je m'attendais à la façon dont nous avons joué. Et les joueurs, que Dieu les bénisse, ont fait un gros effort. Nous sommes heureux et nous avons des espoirs pour le prochain tour et pour rester dans le tournoi.
Dans son coup de sifflet, Jules Valentin Gouy revient sur cette qualification marocaine, sans oublier la tâche qui attend le Ghana et le Cameroun qui jouent gros ce vendredi soir.
Bonjour. La balade des gens heureux se poursuit pour les Africains avec la qualification sans bavure des Lions de l'Atlas du Maroc un jour après celle de leurs homonymes de la Teranga. Mais si la situation d'avant-match et l'adversité du jour plaçaient déjà les représentants africains les plus rassurants sur orbite, par contre, pour ce soir, Ghanéens et Camerounais ne partiront pas sur les mêmes bases. Les Black Stars qui affrontent l'Uruguay ont leur destin entre les mains, ce qui n'est pas le cas des Camerounais à qui il faudra non seulement réussir l'exploit contre la première nation FIFA, le Brésil, mais aussi espérer un mauvais résultat de la Suisse face à la Serbie avant de sortir les calculettes. Alors le Cameroun est-il prêt à relever ce défi? En choisissant quelle option tactique? Si on tient compte du fait que le Brésil a toujours joué de la même manière, les affiches Cameroun-Brésil passées peuvent nous fournir quelques renseignements. Ainsi, lors des déroutes des Coupes du Monde 94 et 2014, les Camerounais avaient choisi à leurs dépens de laisser une grande liberté aux artistes sud-américains. Par contre, pour leur victoire aux Jeux Olympiques 2000 et à la Coupe des Confédérations 2003, les Lions indomptables avaient préféré assurer défensivement devant Ronaldinho et les siens avant de profiter d'un éclair de Modeste Mbami puis d'un contre de Samuel Eto'o pour réaliser les deux exploits. Rigobertson, qui est avant tout un défenseur, choisira sûrement la seconde option et puis on verra. À très bientôt.
Le Brésil et le Portugal qui disputeront leur dernier match des phases de poule ce vendredi ont déjà leur billet en poche.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a confirmé hier une tentative de putsch contre le régime le week-end dernier. Des rumeurs de tentative de coup d'État avaient fait le tour des réseaux sociaux ce week-end, donc le week-end dernier dans le pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Oui, ce qui était une rumeur jusque-là a été confirmé hier par le capitaine Ibrahim Traoré. Une tentative de déstabilisation de l'actuel pouvoir, affirme le président de la transition lors d'une rencontre à Ouagadougou avec des organisations de la société civile et des leaders coutumiers et religieux. L'information est révélée par la radio locale Radio Omega, citant des participants qui affirment que des forces essaient de saboter les efforts du régime. Le président de la transition a confié aux participants des velléités de déstabilisation de certaines personnes orchestrées le week-end dernier. La situation est sous contrôle, a laissé entendre le capitaine qui a demandé aux participants d'être en alerte et de se tenir prêts, car le chemin ne sera pas facile. Le week-end dernier, des rumeurs d'une tentative de déstabilisation du pouvoir ont alimenté les réseaux sociaux. Dimanche et lundi, des manifestants, des partisans du capitaine Ibrahim Traoré, s'étaient réunis à la place de la Nation à Ouagadougou pour protester contre cette tentative de putsch. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Après 5 jours de trêve, des combats à l'arme lourde ont repris hier dans l'est de la République démocratique du Congo entre le M23 et l'armée congolaise, qui a accusé ces rebelles d'avoir massacré mardi une cinquantaine de civils dans des affrontements qui ont repris à Kichiché, à 70 kilomètres au nord de Goma, dans le nord Kivu. Les accusations viennent aussi bien de l'armée régulière, des diplomates, de l'ONU, des ONG internationales que de la société civile locale. Le M23 a rejeté hier soir de telles accusations et demandé une enquête indépendante. Eddie Isango fait le point.
Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Kengé, a dans un communiqué indiqué que les rebelles avaient violé les cessez-le-feu et procédé à des massacres des 50 civils mardi à Kishishe. Le M23 a également, selon lui, attaqué jeudi les positions de l'armée à Kalima. Pour le général Kengé, les FRDC, forces armées de la RDC, observent scrupuleusement les cessez-le-feu conformément à la décision des chefs d'État de la EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, et de la CIRLGEL, Conférence internationale de la région des Grands Lacs. La chargée d'affaires de l'ambassade américaine à Kinshasa, Stéphanie Miley, citée par Reuters, a affirmé avoir la même information et déclaré que ces exactions pourraient constituer un crime de guerre de la part des rebelles. Human Rights Watch comme la MONUSCO ont aussi confirmé l'information. Le gouvernement refuse de s'asseoir à une même table que les M23 dans les pourparlers qui se tiennent en ce moment à Nairobi au Kenya avec d'autres groupes armés et mouvements rebelles du pays. Kinshasa exige une observation stricte du cessez-le-feu et le retrait des rebelles des positions sous leur contrôle avant toute discussion. Les rebelles ont démenti et mis en garde contre la manipulation.
Au Mali, un soldat malien et un civil ont été tués, selon un responsable administratif local, dans une rare attaque terroriste mercredi dans l'ouest du pays, à Yélimané, ville proche de la frontière avec la Mauritanie dans la région de Kaye. Les deux victimes sont un militaire et le gardien de la douane. Après l'attaque du camp militaire et des locaux de la douane, a affirmé hier Madi Kama Diawara, le préfet de Yélimané. Ici à Washington, le président Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont réaffirmé jeudi leur détermination à faire front contre la guerre menée par la Russie en Ukraine lors d'un entretien à la Maison-Blanche et ils ont admis des tensions dans la gestion des conséquences économiques du conflit. Les détails avec Jean-Roger Biot.
Le président américain a reçu son homologue français dans le bureau ovale à l'occasion de la deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron dans le pays depuis 2017. Joe Biden a salué en la France le plus vieil allié des États-Unis, un partenaire inébranlable pour la cause de la liberté.
France is one of our strongest partners.
Emmanuel Macron a quant à lui estimé que les deux pays devaient savoir redevenir des frères d'armes face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et partager la responsabilité de protéger la démocratie. Dans une déclaration conjointe diffusée après leur tête-à-tête, les deux dirigeants se sont dit résolus à demander des comptes à la Russie pour les atrocités et les crimes de guerre largement documentés commis à la fois par les forces armées régulières et les forces supplétives russes en Ukraine. Ils ont également promis de se coordonner face aux défis représentés par la Chine et annoncé leur intention d'élargir la coopération franco-américaine en matière de défense.
Concernant les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et l'impact sur l'industrie européenne de la loi américaine sur la réduction de l'inflation et les subventions massives réservées aux fabricants américains qui en découlent, voici une déclaration du président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse qui a suivi l'entretien avec M. Biden.
Sur les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries, notre industrie, on va continuer d'avancer en européen et bien, nous ne sommes pas là pour, en quelque sorte, demander des preuves d'amour. On était là pour se mettre d'accord sur une stratégie et clarifier les choses qui méritaient de l'être. Je considère que la discussion l'a fait. Maintenant, nous avons notre propre travail. On ne peut pas demander aux États-Unis d'Amérique de prendre une loi pour régler les problèmes de l'Europe. Donc nous, en Européens, on doit aller plus vite et plus fort pour avoir la même ambition et réussir justement à se mettre aussi en synchronie.
Voilà le président Emmanuel Macron. Retour à l'actualité africaine, réunion d'urgence des hauts responsables de l'ANC, le parti au pouvoir, cet après-midi en Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa multiplie les consultations avec les poids lourds de l'ANC et devrait faire une annonce imminente après la publication d'un rapport affirmant qu'il a pu commettre des violations et des fautes dans le cadre d'un scandale qui l'empoisonne depuis des mois. Selon son porte-parole, il ne panique pas et continue à étudier toutes les options dans le meilleur intérêt du pays. Et puis un étudiant nigérien a comparu devant une juridiction pénale d'Abuja pour diffamation contre l'épouse du chef de l'État à cause d'un tweet jugé offensant à son égard, a indiqué jeudi son avocat. Twitter a suspendu vendredi le compte du rappeur américain Kanye West pour incitation à la violence après la publication d'une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David, a annoncé le patron du réseau social Elon Musk.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedidia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nouveau moyen de prévention du VIH au Zimbabwe. Ce pays a adopté l'usage du caboté gravir, un produit injectable. Beaucoup de Zimbabwéens attendent impatiemment que ce médicament soit disponible. Reportage à Harare de Columbus Mavunga, récit de Michel Joseph.
Une Zimbabwéenne de 32 ans, ayant requis l'anonymat, a révélé avoir reçu une injection de cabotegravir alors qu'elle travaillait aux États-Unis. Pendant 7 ans, elle devait prendre des comprimés quotidiennement. Elle se réjouit que le Zimbabwe ait approuvé l'usage du cabotegravir.
Je préfère l'injection au comprimé. Vous prenez seulement une injection tous les deux mois, contrairement au comprimé que vous prenez chaque jour, à la même heure, avec un risque d'oubli, parce que tant de choses se passent dans la journée. Vous pouvez aller à des funérailles et oublier vos comprimés à la maison.
Le Zimbabwe est le premier pays africain à approuver l'utilisation du cabotegravir, ou CAB-LA. Les États-Unis en ont autorisé l'emploi en décembre 2021 et l'Australie en août dernier. En 1999, les autorités zimbabwéennes ont introduit une taxe de 3% sur le revenu des individus et des entreprises pour financer la lutte contre le VIH. L'Organisation mondiale de la santé les a félicités d'avoir approuvé l'usage du cabotegravir, estimant que cela ouvrira la voie à d'autres moyens plus sûrs et plus efficaces de prévention du VIH. Farai Masekela dirige le service enregistrement et évaluation de l'Agence zimbabwéenne de contrôle des médicaments. Il explique que le cabotegravir est approuvé pour le moment à titre préventif.
Il y a d'autres formules contenant du cabotegravir qui pourraient être soumises par les demandeurs ou les fabricants pourraient être utilisées comme traitement.
Docteur Nyaradzo Ngogi, du Centre des essais cliniques de l'Université du Zimbabwe, a dirigé l'expérimentation du nouveau médicament dans 9 pays africains. Elle assure que le cabotegravir est très efficace et exhorte les autorités zimbabwéennes à le rendre disponible le plus tôt possible.
En tant que femmes africaines, nous continuons d'être infectées au VIH-Sida à des taux alarmants et une infection de plus est une de trop. Quand nous avons un produit efficace, nous devons le mettre à la disposition de la personne ou des personnes qui en ont besoin.
Les partisans du cabotegravir estiment que l'accès à ce médicament permettra au Zimbabwe de cesser les importations de produits antirétroviraux.
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'environ 38 millions de personnes vivaient avec le virus à la fin de l'année 2021. Il n'existe aucun remède contre l'infection par le VIH. Cependant, les experts affirment que des antirétroviraux efficaces peuvent contrôler le virus et aider à prévenir sa transmission. Mais l'adhésion au traitement reste un défi pour de nombreux patients. Mise en perspective d'Ilidico.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, à la fin de l'année 2021, environ 38 millions de personnes vivaient avec le virus de l'immunodéficience humaine VIH. Il n'existe aucun remède contre l'infection par le VIH. Cependant, les experts affirment que des antirétroviraux efficaces peuvent contrôler le virus et aider à prévenir sa transmission. Mais l'adhésion au traitement reste un défi pour de nombreux patients.
Écoutons le docteur Wangi Kamao, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Kenyatta.
ART est un traitement à vie. Vous devez prendre les médicaments tous les jours, vous devez être inlassable, vous devez prendre ces médicaments sans relâche tous les jours. Et certains patients éprouvent une lassitude vis-à-vis des médicaments. Ils finissent par avoir un certain dédain à l'égard de ces médicaments et ils sont également confrontés à une forte stigmatisation à cause du VIH.
Au fil des années, les progrès de la médecine ont permis aux gens d'avoir plus de choix en matière de prévention et de traitement. Parmi ceux-ci figure le cabotegravir, injectable à action prolongée, utilisé pour la prévention et le traitement du VIH. Des pays africains comme le Zimbabwe ou l'Ouganda ont approuvé l'utilisation de ce médicament injectable. Selon les scientifiques, ce médicament pourrait contribuer à améliorer l'adhésion des patients au traitement car il est facile à utiliser.
Kaniswa Kwacha est une patiente prenant la pilule PrEP.
Je suis très heureuse de passer des pilules PrEP aux injectables. C'est une superbe évolution car avec les pilules PrEP, je dois me rappeler qu'aujourd'hui, il faut que je prenne les cachets avec moi. Je travaille dans une clinique mobile, je rentre parfois très tard chez moi et je dois quand même prendre mes pilules PrEP. Je sais que le traitement injectable est dans mon corps, je me déplace avec l'injection au lieu de marcher avec le bruit des pilules. Du coup, oui, je suis très heureuse.
Si les progrès de la médecine ont amélioré la vie des personnes séropositives, l'ONU-SIDA signale que les inégalités provoquent une augmentation des nouvelles infections et que des personnes continuent de mourir faute d'accès aux services de prévention et de traitement dont elles ont besoin. Selon l'OMS, plus de 18 millions de personnes sont sous traitement à vie contre le VIH dans le monde, mais un nombre quasi égal de malades n'a pas accès au traitement.
Selon les Nations Unies, seulement 35% des élèves africains atteignent un niveau minimum de compétence en lecture et 22% en mathématiques à la fin de l'école primaire. Au Rwanda, un groupe est en train de créer des bandes dessinées, des jeux et des animations fondées sur des personnages rwandais et les traditions locales pour aider à améliorer l'alphabétisation des enfants. Reportage de Senanou Tor au quartier Nyamirambo de Kigali, la capitale. Le récit est de Rosine Munezero.
Séraphin Idabukunda, 13 ans, est l'un des nombreux élèves de Nyamirambo au Rwanda qui se réunissent dans une association à but non lucratif appelée One Help One Direction Ihumure pour s'entraîner à la lecture et à l'autographe. En Kinyarwanda, Ihumure signifie « donner de l'espoir ». Sa lecture s'est améliorée au cours des derniers mois et il est désormais capable de faire la lecture aux autres. Selon l'association, certains élèves n'ont pas de matériel de lecture adapté à la maison ou à l'école, ce qui conduit certains d'entre eux à la rue lorsqu'ils prennent du retard en classe. Mais les responsables affirment que les élèves reprennent goût à la lecture grâce à de nouveaux supports mettant en scène des super-héros, la culture et les traditions rwandaises dont des bandes dessinées, des animations et des jeux.
The stories were written. They add more drawings because if you give a kid a book that it's
Les histoires étaient écrites. Ils ont ajouté des dessins parce que si vous donnez à un enfant un livre dans lequel il n'y a pas d'image ou de dessin, il ne peut pas le lire. Donc, ils essayent de faire des bandes dessinées animées à travers les livres et je pense qu'ils ont commencé à faire aussi des dessins animés vidéo.
They have started also doing video cartoon.
Les chercheurs universitaires du monde entier continuent d'étudier l'utilisation des bandes dessinées et des animations comme outil pédagogique efficace. Plusieurs études suggèrent que les bandes dessinées aident les élèves à comprendre la lecture et suscitent un intérêt pour la lecture volontaire. Un studio de création appelé Imanzi Creations a produit le nouveau matériel pour les élèves.
Je pense que les bandes dessinées et les dessins animés sont vraiment importants parce que c'est l'environnement dans lequel nous avons grandi. Même si le contenu était différent, cela nous a aidés à apprendre les langues.
Les créateurs affirment que l'un des problèmes est le manque de pertinence et d'histoire africaine traditionnelle sur le marché des bandes dessinées et des dessins animés éducatifs. Pour y remédier, ils ont créé des animations dans des contextes rwandais auxquels les élèves peuvent facilement se connecter et s'identifier.
Maintenant, si nous pouvons amener cela dans quelque chose qu'un enfant d'aujourd'hui peut identifier, qui lui est familier, comme l'environnement dans lequel il grandit, plutôt qu'un environnement imaginaire. Même si c'est imaginaire, pourvu qu'il y ait quelque chose proche de la réalité, ça les aide beaucoup dans leur identité.
Le Conseil rwandais de l'éducation fait pression pour que le contenu local soit intégré dans l'éducation par le biais de politiques et de programmes scolaires, mais les défenseurs de cette cause affirment que les problèmes de chaîne d'approvisionnement entravent toujours l'accès des minorités sociales au matériel.
Mondial Qatar 2022, c'est le plus grand événement sportif de l'année. Rejoignez VOA pour célébrer le sport roi. Couverture approfondie, analyse d'avant et après match, équipe, entraîneur, vedette, joueur, et n'oublions pas les fans dans quatre coins du continent africain et de la ville de Doha. Nous serons là tout au long de la compétition. Ne manquez pas le plaisir avec l'équipe VOA Afrique. Vivons la magie du football ensemble.
D'après le rapport annuel du Pentagone sur la puissance militaire de la Chine, publié mardi et adressé au Congrès américain, le rythme de l'expansion nucléaire de la Chine pourrait permettre à Pékin de disposer d'un stock d'environ 1500 ogives nucléaires d'ici 2035. La correspondante de la VOA au Pentagone, Carla Babb, nous donne les détails dans ce reportage repris ici par Thierry Kaoré.
Un nouveau rapport du Pentagone indique que la Chine possède plus de 400 ogives nucléaires, doublant presque son arsenal nucléaire en 2 ans seulement. Le rapport indique également que Pékin a lancé environ 135 missiles balistiques à des fins d'essai et d'entraînement l'année dernière, soit plus que le reste du monde réuni si l'on exclut les missiles balistiques lancés dans des zones de conflit comme l'Ukraine. Écoutons Bradley Bauman de la Fondation pour la défense des démocraties.
Si on examine la capacité et l'ampleur de l'arsenal de la Chine en missiles, c'est à couper le souffle.
Selon le général Mark Milley, président des chefs d'état-major interarmée, le Pentagone considère la Chine comme un défi de taille.
La Chine est le seul pays qui, géopolitiquement, a le potentiel de puissance pour être un défi important pour les États-Unis, et c'est le cas.
Et toujours selon le rapport, la Chine a intensifié ce que le Pentagone appelle un comportement militaire dangereux et non professionnel envers les États-Unis et leurs alliés dans la région, en particulier l'île démocratique de Taïwan, comme le souligne l'analyste de la défense Bradley Bauman.
Ils ont refusé d'écarter l'option de la force militaire contre Taïwan. Ils ont explicitement refusé de le faire et ils entreprennent des actions d'un pays qui pense ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il se prépare à potentiellement mener une attaque contre Taïwan.
Selon le Pentagone, une attaque potentielle n'est pas envisageable à court terme malgré les agressions récentes. Écoutons le général de brigade Pat Reeder, secrétaire de presse du Pentagone.
Comme le souligne le rapport, nous ne pensons pas qu'une évasion soit imminente.
Mais un haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes que la Chine a créé une nouvelle activité militaire de routine autour de Taïwan. Après la visite de Nancy Pelosi sur l'île en août dernier, la Chine a intensifié les exercices, les tirs de missiles et les traversées du détroit. Le ministre chinois de la Défense, Wei Fan, a déclaré au secrétaire d'État à la Défense, Lloyd Austin, la semaine dernière au Cambodge, que Pékin considère Taïwan comme une ligne rouge. Et cette agression s'est répandue dans des régions comme la mer de Chine méridionale, où le navire USS Chancellorsville a effectué une opération de liberté de navigation pour promouvoir le libre passage dans les eaux internationales, où se trouve la moitié du trafic de la flotte marchande mondiale qui rapporte des milliers de milliards de dollars chaque année. Le général de brigade Pat Reeder, secrétaire de presse du Pentagone.
Je sais qu'il a été rapporté que la Chine a essentiellement éjecté notre navire de la zone. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, nous continuons à naviguer, à voler et à opérer là où le droit international le permet.
La Chine revendique une grande partie de la mer comme son territoire et a ignoré une décision d'un tribunal international selon laquelle Pékin n'a aucun titre historique sur la mer de Chine méridionale.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebouya, à la mise en œuvre de Lionel Ronaliraganima, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.